matin. Donc, j'ai rentré ma chemise, puis j'ai mis une cravate, puis j'ai le coin de ma poche arrière ici, là. Non, non. Oh boy, où c'est que je m'en allais avec ça? C'était le fun ce matin, j'aimais ça entendre parler de quand je vois de vivre avec Gabriel. Hein. C'était magnifique d'entendre tout ce que Dieu faisait et Dieu avait fait cet été à travers lui puis son ministère là-bas. Moi, j'ai passé 2 semaines à la villa. C'était probablement les 2 meilleures semaines de mes vacances. Là. Je ne sais pas si je vais déranger ma femme là, en disant ça, mais on a vraiment eu du bon temps là-bas. Là. On avait une quarantaine de jeunes pendant 2 semaines. 2 semaines pleines, incluant la fin de semaine. Ils ont resté 12 jours avec nous. On a dit, Jocelyn, au but, a pu les enseigner la parole 12 matins. On a eu 13 soirées pour les feux de camp, pour les partages dans les cabines. J'ai pu visiter 13 des cabines 13 fois pour parler avec les jeunes. J'ai vu des jeunes qui sont partis de vouloir partir tout de suite parce qu'on parlait de Jésus, à demander un Nouveau Testament avant de partir. Donc, on a vu le Seigneur travailler. C'était magnifique. Mais les choses ne vont pas toujours toutes comme qu'on veut. J'ai plein d'histoires de la villa. Je préparais un jeu. Puis, à un moment donné, j'ai pété l'orteil contre une roche. Ça fait mal. J'ai tombé à terre, puis j'ai coupé le genou sur une autre roche. Puis, j'ai foulé le doigt par terre. Il fallait que j'aille jouer la guitare au camp Brochet pendant une semaine au camp familial après. Et là, j'avais le doigt gros comme pour deux. Et ça s'est mis un nix dans mes plans. Mais en plus, avec mon doigt gros comme ça, il a fallu que j'enlève mon alliance. Il a fallu que j'aille la faire couper. Ces choses ne vont pas comme qu'on veut. Hein. Je suis arrivé de là, allé dans la rivière, puis j'ai pété mes gougounes préférées, Crocs. Là. Et c'est méchante affaire. Hein. Les choses ne vont pas toujours comme qu'on voudrait. Ah oh, oui, Annie a fait signe. J'ai oublié la veille de ça. J'ai descendu la grande glissade d'eau, mais j'ai oublié d'enlever mes lunettes. Donc, mes lunettes sont encore, en fait, dans le fond du lac. À la villa, j'ai passé 2 heures à les chercher avec des goggles puis toutes sortes de choses. Il y a une jeune qui a mis une lampe de poche dans un sac Ziploc là, pour essayer de voir si on pouvait faire un peu de lumière dans le fond. Mais il n'y a rien qui marche. Des choses ne vont pas toujours comme qu'on veut. Température dehors, hein, fait pas beau. Ma belle-sœur reste à New York. Puis on y a essayé d'appeler cet après-midi sur Long Island. Puis là, on ne pouvait pas les rejoindre. On ne sait pas, c'est juste l'électricité qui est coupée. Y a-tu quoi? C'est drôle même, je montais ici, je pensais tout ça, puis j'ai entendu René dire à Daniel, j'ai aucune idée du contexte, mais il disait, quelqu'un avait dit, les choses ne sont pas supposées se passer comme ça. Hein? Et on se rend compte vite dans le monde et dans la vie que les choses ne sont pas comme on voudrait toujours qu'ils soient, et on ne comprend pas toujours pourquoi c'est comme ça. On a chanté il y a 2 minutes, « Béni soit ton nom ». Je me rappelle la première fois que j'ai montré cette chanson-là. C'était le même dimanche qu'on avait annoncé que le cancer de Doris Desaulniers était revenu. Et moi, je suis monté enseigner cette chanson-là tout de suite après. Et on a chanté « Béni soit ton nom sur le sentier de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande, béni soit ton nom. » Les choses ne vont pas toujours comme qu'on voudrait, puis on ne comprend pas toujours pourquoi les choses se passent comme qu'ils se passent. Et moi, mon but ce soir, c'est d'essayer de vous encourager que Dieu est souverain, que Dieu, dès le début des temps, il avait un plan. Lui, il savait où il s'en allait, qu'est-ce qu'il était pour faire, que la dernière page est déjà écrite. On attend juste pour y arriver. Et d'être encouragé dans toutes ces choses-là à travers le plan de Dieu et la promesse de Dieu pour faire grandir notre espérance. Pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait vous amener. Je vois des jeunes là, qui s'inquiètent de blonde ou de chum ou de, j'espère, de mari ou de femme. Il y a peut-être des jeunes couples qui s'inquiètent d'enfants. On va-tu pouvoir en avoir? On va-tu être capable de les élever comme du monde? On va-tu capable de faire un job comme William y a fait? Mieux encore, j'espère. Peut-être on se pose des questions pour le travail ou pour la retraite. On va-tu pouvoir le prendre un jour? Je vais-tu avoir un job pour pouvoir prendre ma retraite un jour? C'est toutes sortes de choses, la santé. Mais on pourrait même aller avec la victoire sur le péché. Dieu nous a dit qu'on pouvait l'avoir en Jésus-Christ. Et on sait qu'il y a quelque chose dans sa vie là, qu'on n'est pas capable. il reste avec nous longtemps. Puis nous, on ne comprend pas pourquoi. Peut-être c'est le salut des enfants, peut-être la consécration des enfants. Et on se demande comment que ça va se passer, comment que ça se fait. On élève un enfant selon notre voie qu'il doit suivre, puis on promet qu'il ne s'en écartera pas, mais peut-être il est écarté. Et on se demande. On va aller voir dans la parole de Dieu, le plan de Dieu, les promesses de Dieu, pour essayer d'avoir une plus grande espérance. On va commencer en 2 Samuel 7. Donc, si vous pouvez y tourner, on va avoir un texte à lire. Juste pour vous annoncer vite un peu le contexte. Ben non, en fait, le contexte, c'est pas mal expliqué dedans. Donc, je ne vous annoncerai pas le contexte, on va juste le lire. On va aller comme ça à place. Donc, 2 Samuel 7. Lorsque le roi David, ici, habita dans sa maison, et l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient. Il dit, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison du cèdre alors que l'arche de Dieu habite sur la toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente ou dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, et je dis un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent pas à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains, mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. On va juste prier, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Donc, Seigneur, ouvre nos pensées de comprendre. Ouvre nos cœurs de saisir, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir la grandeur de notre Dieu, la grandeur de notre roi, la grandeur de tes plans pour nous. Et suscite dans nos cœurs la foi face à ce plan et aux promesses que tu nous as faites, et que cette foi nous donne une espérance, une grande espérance. Affirme-nous, Seigneur, dans nos cœurs ce soir, à travers l'enseignement de ta parole. Je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, on a dans l'histoire ici le roi David et on a une promesse que Dieu lui fait. On voit un petit résumé de ce que c'est écrit au tableau. La postérité, que la postérité de David assurerait la paix et la prospérité du peuple à perpétuité. Une chance qu'il y ait une petite affaire avant sur le micro, sinon on aura entendu plein de pouf, pouf. Bon, postérité. Bon. OK. Dieu a un plan, ça accomplira. Première chose qu'on va voir ensemble. Deuxième chose, que les promesses de Dieu sont vraies. Troisième chose que je vais tenter de faire avec vous, c'est de voir Jésus-Christ, le Fils de David, et de voir la grande espérance que nous avons maintenant en lui et à cause de lui. OK? Donc, on a le roi David dans 2 Samuel 7. On voit premièrement dans le texte, on les voit surtout dans les versets 8 jusqu'à le milieu du 11. On voit tout ce que l'Éternel avait déjà fait pour David et son peuple. Et c'est pas rien. il avait installé David comme roi. Comme roi de ce peuple-là. Il avait donné victoire à David sur tous ses ennemis. Bien, dans le fond, les ennemis de David, c'étaient les ennemis du peuple aussi. Donc, avec tout ça est venu la paix et le repos pour tout le peuple de Dieu, sur David. David, Dieu avait déjà fait quelque chose de merveilleux pour David. On débute le texte en disant qu'il vivait dans une maison de cèdre, toute bien installée, à tel point qu'il sentait mal que son Dieu ait juste une petite tente en bas. Il voulait lui faire une maison aussi glorieuse que la sienne, mais c'est Dieu qui avait fait tout ça déjà pour lui. Et Dieu promet en plus qu'il irait plus loin que ça. Il avait déjà fait pour David et son peuple ces choses-là, et il dit que l'Éternel ferait pour David et pour son peuple. Il donnerait paix et repos, pas juste à David et à son peuple dans son temps, mais aussi que le fils de David et la nation qui dirigerait auraient aussi ce paix et ce repos-là. Il a promis aussi de la discipline. Ça, on peut pas, peut-être penser que ce n'est pas la meilleure des choses à voir là-dedans. Hein? Ce n'est peut-être pas une belle promesse. Mais en fait, moi, je pense à David, il pense à ses fils. Puis d'ici, il s'écarte. Dieu, il va les ramener. Il va les travailler. C'est-à-dire le discipliner avec des bâtons, avec des coups des hommes. Mais c'est quand même une belle promesse que la discipline va être là, mais que la bienveillance va être là aussi. À un moment donné, Dieu avait rejeté le roi Saül. David, il l'avait vu. Il savait, c'était lui qui était bénéficiaire de ça. Mais Dieu promet à David, ma bienveillance va être avec toi, et ce, pour toujours. Qu'est-ce que David comprend d'abord? Désolé, mais excuse-moi, mes lunettes là, me dérangent avec cette affaire-là. C'est tellement inconfortable, vous ne pouvez pas imaginer. Mais qu'est-ce que David y aurait compris de ça? Mais David y aurait compris que son fils serait roi et la nation serait paix et prospère. Et que son petit-fils serait roi, puis la nation aurait été en paix et prospère, etc., etc. Probablement, c'est comme ça que David y aurait compris la chose. Ce qui est spécial, c'est de penser, là, on attend 2 Samuel 7, on voit David, qui arrive, un petit berger, qui devient roi de la nation Israël, puis on dit, c'est que c'est merveilleux. Mais il ne faut pas qu'on oublie, c'est quelque chose qui avait été prévu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous le savez, sûrement quelques-uns, on savait qu'ils s'attendaient à ce que le roi vienne de la tribu de Juda. Ça avait été annoncé. En Genèse 49, on ne lirait pas tout, le 8 jusqu'à 12, mais c'est dit, c'est toi que tes frères, c'est Jacob qui bénit ses fils, puis il bénit Juda, puis il dit, c'est toi que tes frères célébreront. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Puis on ajoute, le sceptre ne s'éloignerait point de Juda. Là, on voit l'annonce qui avait été assez claire, que le monde s'attendait à ce que un roi vient de la tribu de Juda. Ça, il est assez bien connu. Mais j'ai été surpris de découvrir d'autres choses. C'était encore antérieur à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la bénédiction que Jacob il a volé de son frère Isaïe, mais Isaac lui a béni en disant, « Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » Jacob, il avait déjà une espèce d'attente royale. Même avant ça, par exemple, le grand-père à Jacob, avait aussi reçu cette promesse de Dieu en Genèse 17:6. Il dit, « Des rois sortiront de toi. » Donc, David, quand c'est arrivé, la promesse que Dieu lui a faite, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'était pas tout d'un coup, là, David, là, Dieu il avait un gars qui savait se battre, puis il avait des mains habiles là, pour diriger le peuple. Donc, Dieu dit, « Ah, tu sais quoi, je vais te faire une dynastie. » Mais non, Dieu y avait annoncé à Juda, oui, aussi à Jacob, aussi à Abraham. Puis on s'attendait depuis le début de la nation d'Israël à ce qu'un jour qu'il y ait un roi. Même dans la loi, on remarque, et je pense que c'est Deutéronome 17, il y a des instructions déjà pour dire, quand tu es rendu dans le pays, puis tu vas demander un roi, voici le genre de roi que tu dois choisir. On voit ça en Deutéronome. Il y avait une grande attente déjà royale au sein du peuple de Dieu, puis dans la lignée d'Abraham. on pourrait même oser aller peut-être un petit peu plus loin que ça encore, par exemple. Quand Adam a été créé, on voit en Genèse 1, 28, Dieu dit « Soyez fécond, multipliez-vous. » Moi, j'ai une fois et demie, moi et ma femme, donc on a fait notre job. « Remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur... » Il y a toute une liste de toutes sortes de choses, je n'ai pas mis le texte en avant. Mais on voit que, déjà là, Adam, Dieu s'attendait à ce que Adam règne en quelque sorte sur la terre et qu'il exerce cette royauté-là. J'ai remarqué, par exemple, en Genèse 9, 1, après la chute, c'est répété à Noé, ces commandements-là, mais ça arrête un petit peu plus tôt. Dieu lui dit, soyez fécond, multipliez-vous, remplissez la terre. Point. Et soumettez-la, c'est pas répété. Dominer sur les animaux, les poissons, les choses comme ça, c'est pas indiqué. C'est comme si, à partir d'Adam, il y avait quelque chose, une intention que Dieu avait pour l'homme qui avait été perdu avec la chute. Et j'ai lu quelques commentateurs qui disaient que Adam, en obéissant, si on veut, à l'adversaire, il a cédé son règne, puis il a laissé l'adversaire, le diable, régner, avoir un royaume sur la terre. Même on voit quand le diable vient tenter Jésus, même il dit, « Je peux te donner les royaumes de la terre, car ils m'ont été donnés. » Maintenant, c'est un menteur, lui. Je ne sais pas si lui dit la vérité ou non. Mais, en tout cas, il y a de quoi là où est-ce qu'Adam avait à régner. Et il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu, qui a changé avec le temps. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que tout ça, ça a été accompli finalement avec le roi David qui revient. Puis les promesses qu'on voit en 2 Samuel 7, c'est tout dans une suite. Dieu n'a pas été surpris avec le péché de l'homme, puis quand l'homme il a cédé sa royauté pour le donner à quelqu'un d'autre, Dieu n'a pas été surpris de ça. Il y avait déjà un plan de match. Il ne l'a pas tout révélé. Jean-Luc me parle souvent là, qu'est-ce qu'on dit, révélation progressive de Dieu. Justement, c'est la chute de l'homme. Dieu dit, l'inimitié entre le serpent puis la semence de la femme a déjà assez spécial, que tu lui morderas le talon puis lui il va t'écraser la tête. Déjà là, on voit qu'il y a de quoi. Là, Dieu, il n'est pas mal pris là. C'est pas qu'il n'y a pas de plan puis c'est pas puis il va improviser quelque chose. Dieu il savait à partir d'Adam, Abraham, Jacob, Judas, jusqu'au roi David. Dieu avait un plan pour essayer de rétablir des choses avec son peuple. On le voit justement que Dieu a un plan qui va s'accomplir. Qui va s'accomplir. Ça va s'accomplir même au milieu de nos souffrances, au niveau de toutes les situations qu'on pourra avoir à vivre. Maintenant, Dieu n'a probablement pas un plan pour vous de régner sur les nations de la terre. Peut-être on a un futur premier ministre ici, qui sait. Mais Dieu, il y a un plan dans ce monde. Il y a un plan pour le salut des gens. Il y a un plan pour le perfectionnement des saints. Il y a un plan pour nous amener, nous, à l'image de Jésus-Christ. Il y a un plan pour pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse. Et peut-être à ce soir, vous ne souffrez pas, là, et vous êtes là dans votre bonheur total à dire, fini donc, Will, on s'en va. Ça va venir. Ça va venir. Des souffrances et des situations difficiles, ils viennent tout le temps. Puis si on n'a pas nos deux pieds bien solidement ancrés dans la souveraineté de Dieu, c'est là qu'on va branler. Quand on arrive à être célibataire encore j'en connais un à 37 ans, puis on commence à dire, c'est quoi donc le plan de Dieu là-dedans? Mais tant qu'on se dit Dieu est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut, il fait de quoi avec moi, il s'en va à quelque part, là, on va être bien ancré. Mais c'est quand on se détache les deux pieds de cette place-là et on oublie, on arrête d'y croire et d'y mettre foi, d'ajouter foi à ces paroles-là, et c'est là qu'on va commencer à glisser, c'est là qu'on va commencer à voir toutes sortes de situations, puis on va sortir du plan de Dieu. On va chercher d'autres choses. Donc, Dieu, il a un plan, ça, il est pas mal pris dans ta situation, il est pas mal pris dans ce qui va vous arriver dans le futur. Lui, il sait où il s'en va. Il est au contrôle de tout ça. et dirige. On veut voir aussi que les promesses de Dieu sont vraies. Donc, on va revenir à la promesse que Dieu a faite à David. On avait vu trois choses qui avaient été promises. Là, je les ai plus à l'écran, mais que je les ai plus pas en tout. Premièrement, qu'une royauté serait donnée à son fils, qu'il y aurait la discipline du Père sans jamais perdre sa bienveillance, et que ce serait pour toujours. Que c'est merveilleux, hein? Donc, David a eu un fils, Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Ben, Salomon, il est devenu roi. Salomon, il a construit un temple pour son Dieu, comme Dieu lui avait annoncé. Salomon a été roi de paix et prospérité, comme on ne pourrait pas imaginer. Pareil comme Dieu avait promis. Mais à la fin de sa vie, on sait que Salomon s'est détourné du Seigneur. Il a suivi ses femmes jusqu'à ce qu'il adore des idoles puis d'autres dieux qu'il avait amenés avec eux puis qu'il détourne son cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit le texte écrit dans ce puits de Samuel 7, 1 à 17, ça doit être en 1 roi. C'est dit, « Puisque tu n'as pas observé mon alliance, je vais déchirer certainement. » Oups, quand Dieu a un plan, hein, on a vu là, qu'il va s'accomplir. « Je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter. » Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David. Là, on voit Salomon, déjà le fils de celui qui a reçu la promesse, que déjà il doit être corrigé par le bâton et par les coups des hommes. Mais on voit que la bienveillance ne s'enlève pas de lui, puis la promesse reste. Et la suite de l'histoire, c'est que quand Salomon est mort, ben, un de ses fils fait le compte. Puis, justement, 11 des 12 tribus suivent un autre. Puis, on finit par avoir les deux royaumes, Israël et Juda. Et c'est un fils de David, par exemple, qui est encore sur le trône au pays de Juda. Mais c'est surprenant que ça arrive si vite, hein? Et que c'est surprenant que ça arrive comme ça. C'est peut-être pas à ça qu'on se serait attendu avec la promesse, comme qu'elle était dite. Le roi Salomon, ben, il a un fils, puis lui a un fils, puis lui a un fils, puis lui a un fils, puis ça suit pendant longtemps. Et à peu près le mieux qu'on pouvait dire, je pense qu'il y a juste un qui s'est dit le contraire, le mieux qu'il pouvait dire, c'est « au lieu ne disparut pas ». Donc, toutefois, et on voit là-dedans que tout le temps, pendant tous ces royaumes-là, à part un des rois qui a suivi, il est resté des choses, des places pour louer, pour une façon que Dieu n'avait pas ordonnée, qui plaisait pas à Dieu. Et les rois de Juda, un bon nombre, suivent un peu, puis ils font une partie de ce que Dieu demande, mais un grand nombre aussi sont méchants et se détournent de Dieu. Et Dieu a besoin de les punir. La discipline vient avec le bâton et le coup des hommes. Jusqu'à ce que on arrive à la déportation. La fin de la royauté et la fin du trône de David. Ça arrive, je lis à la fin de deux rois que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Le dernier roi est pris, le roi de Babylone, je pense, qui rentre puis qui déporte, prend tout le monde, c'est parti, c'est fini, il n'y a plus rien. La maison de David est finie. La déportation. Fin de la royauté, fin de son trône, bien ça nous amène à un texte en psaume 89. J'ai quatre versets, un au début, un au milieu, puis un vers la fin, hein, qui représente ça. C'est fascinant à lire, c'est le cri du cœur de cet homme-là, qui écrit « J'ai fait un serment à David, mon serviteur, j'affirmerai ta descendance pour toujours. » Une citation, justement, de la promesse que Dieu avait faite à David. Et le psalmiste écrit « Et pourtant, tu es rejeté. » Tu as repoussé. Tu avais promis, Seigneur. Tu avais promis une descendance royale à tout jamais, qu'il ne manquerait jamais un homme sur le trône de David. Mais pourtant, tu as rejeté et tu as repoussé à cause de la méchanceté des rois. Qu'est-ce qui arrive avec la discipline? Oui, mais que la bienveillance ne s'écartera jamais. Ils sont cris du cœur en verset 50. Où sont, Seigneur, tes actes bienveillants d'autrefois, ceux que tu as juré à David dans ta fidélité? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que Dieu a manqué à sa promesse? Il avait dit qu'il ne manquerait jamais. Il a dit qu'il ne retirera pas sa bienveillance. Et là, le psalmiste, il se pose la question puis il demande. Mais c'est là que lui il s'est rendu compte, et ça, c'est un petit peu une citation de John Piper là, qui dit ça, le pour toujours. Il dit, tant que les rois avaient besoin de discipline, bien, le pour toujours ne pouvait pas vraiment être assuré. Il y a un problème dans le cœur de l'homme. Tant que ce problème-là subsiste, tant que le roi peut être méchant, tant que le roi peut avoir besoin de discipline, bien, la paix et la prospérité de la nation ne pourraient pas être garanties. Ils ont compris ça. Et justement, dans la suite de l'histoire, on voit que quand les rois et les chroniques, ça finit, bien, c'est les prophètes qui prennent la relève. Et on commence à voir une compréhension différente des choses. On va le voir. Il ne faut pas que je me dévance dans mes affaires. Ça, il faut que je revienne là-dessus. Bon, donc dans les prophètes, on voit un Jérémie. Jérémie 33, 14 et 17, ça dit, il dit, « Je ferai germer à David un germe de justice. » Pensez, c'est après la déportation, c'est Jérémie. Il ouvre la fin, si ça n'a pas fait encore, mais il dit, « David, il va avoir un, mais il va avoir un fils qui va être juste. » Qui n'aura pas besoin de cette discipline-là, qui ne s'inquiétera pas d'avoir la bienveillance de Dieu enlevée de celui. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. On commence à avoir une attente que quelque chose, Dieu va faire quelque chose de spécial. Dieu le dit, puis c'est la parole qui est annoncée au peuple. On voit en Ézéchiel 37, « Mon serviteur David serait le roi et ma demeure serait parmi eux. » Pas permis, mais parmi, pardon, excusez la faute. On voit que là, des choses qui s'attendent, Dieu lui-même va être présent dans toute cette chose-là. Dieu va être avec eux autres dans ce temps-là. Et c'est lui le plus clair, que des fois on lit souvent, mais peut-être on ne fait pas le lien. Les prophètes, en Ésaïe 9, un texte qui est bien connu, on lit à tous les Noël. Il vaudrait la peine de le lire plus souvent. Mais car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera toutes sortes de choses, incluant le Dieu puissant. C'est dire renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On voit dans les prophètes que l'attente reste, là. La promesse reste. Loin de nous de penser que la promesse de Dieu n'est pas vraie, parce que ça ne se passe pas comme qu'on pensait. Loin de nous, cette pensée-là. Les prophètes, ils l'ont compris. Les prophètes, ils ont compris que Dieu ferait, susciterait un homme juste, un roi juste, qui ferait le droit, qui ferait le bon, qui dirigerait son peuple. Que Dieu serait là présent dans cette chose-là, que le Dieu puissant va régner, va prendre le trône de son père David. Dieu était pour faire quelque chose, Dieu était pour intervenir. En fait, les prophètes avaient compris que peut-être David pensait qu'il y a un fils qui aura un fils, qui aura un fils, qui aura un fils. Il y aura une succession éternelle de fils qui régneraient à sa place. Et les prophètes ont commencé à comprendre que ce ne serait pas une succession de fils imparfaits, ce serait un fils éternel, parfait, qui vient de reprendre la place sur le trône de David. Et que le plan de Dieu, ce n'était pas comme qu'on peut-être en avait pensé. La promesse de Dieu disait peut-être pas ce qu'on pensait. La promesse, c'est que David y aurait un fils qui serait juste et obéissant, qui assurerait la paix et la prospérité de son peuple. Maintenant, si je regarde ici, je pense que tout le monde que je vois, c'est du monde que je suis habitué de voir ici à l'église. Donc, on connaît l'histoire, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis il n'y a pas de surprise pour vous sur la prochaine étape. On arrive avec Jésus, le Christ. Ce que je veux vous montrer, par exemple, c'est juste un snapshot, quelques exemples des fois où Jésus s'identifie ou que lui est identifié en étant le fils de David. Évidemment, pas un fils de David. Joseph, il était, je regardais dans mon concordance, puis un des fils de David, c'est dit Joseph était fils de David. Et en tout cas, Jésus le Christ, le fils de David. Ah, pour commencer, un autre texte qui est lu souvent à Noël avec l'autre que je viens de lire. il sera grand. C'est annoncé à Marie. Là. Je pense que c'est l'ange qui annonce à Marie qu'elle était pour avoir un fils. Puis il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Une chose, je trouve, qui serait le fun, là, juste, nous, on lit ça, puis on pense, on a des pensées typiques, mais essayez juste de capter là, la promesse à David. C'est le trône de David, on peut penser souvent, oui, il va être roi d'Israël. Non, 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 c'est l'accomplissement d'une promesse qui a été faite en 2 Samuel 7, ça, qui semblait avoir été perdue pendant des années, qui ressuscite tout d'un coup ici autour de Jésus. Jésus, ses racines tournent là avec la paix et la prospérité que David et Salomon ont vécu le temps qu'ils étaient fidèles à Dieu. Cette même promesse-là, par exemple, retourne parce que j'en avais vu que le trône de David, c'était pas nouveau, c'était pas une surprise, c'était pas de quoi de différent que Dieu a commencé à faire. C'était une suite dans ce qu'il avait prévu et ça nous retourne à Juda, à Jacob, à Abraham, à Adam. On vient de l'établir sur une longue ligne avec l'accomplissement de cette promesse-là qui a commencé quand Adam y a péché puis a perdu sa royauté sur la terre, s'accomplit ici en Jésus-Christ avec Dieu qui lui donnerait le trône de David, son père. Et là, on voit qu'il va régner sur la maison de Jacob éternellement, un roi juste et éternel. Si on poursuit, en Matthieu, on voit Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. J'ai trouvé intéressant encore, on voit le lien, pas juste David qui est là. Et l'évangile de Matthieu, si on me dit comme faux, je me rappelle comme faux, c'est l'évangile qui est écrit pour les Juifs pour prouver justement que Jésus était le Messie dans la suite de la lignée de David. C'est ça un début que Matthieu y avait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il retourne aussi à voir Abraham dans cette chose-là. On parle d'un roi, mais il retourne au premier. Des rois sortiront de toi. L'Éternel avait promis à Abraham. Si je poursuis, on voit dans Acte 2, première prédication après la mort de Jésus, on voit que Pierre dit au peuple, Dieu avait lui avait juré, il avait juré à David par 100 mains de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ. Pierre est en train de dire, quand il avait dit qu'il ferait asseoir un de ses descendants, un des descendants de David sur le trône, il avait compris. Jésus, on l'avait vu comme fils de David, il était mort, c'est pas fini. Il savait qu'il ressusciterait et que là, il prendrait son trône, puis il y aura son règne. Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. On connaît Jésus-Christ, l'accomplissement de la promesse. On a cette promesse qui était qu'il y aurait un fils de David, juste et obéissant, qui assurait la paix et la prospérité de son peuple. On vient d'arriver à Jésus-Christ, le fils de David. C'est lui qui a accompli cette promesse au bout du compte. Maintenant, on pourrait dire, c'est beau, William, tu viens de nous parler depuis longtemps, nous dire toutes sortes de choses sur la promesse de Dieu, une promesse qui était faite à David d'avoir un fils qui était Jésus, qui régnera sur la maison d'Israël. Mais la dernière fois, j'ai checké, le plus proche qu'on a d'un juif ici, c'est Abraham. Son nom. C'est supposé être une blague, ça? Vous avez le droit de rire. OK. Elle était proche. Bon. Tu dis, ben regarde, ça c'était pour Israël. C'était dans ce temps-là où c'était dans le futur, dans le règne messianique. Et c'est, tu sais, dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça a rapport avec nous autres? Qu'est-ce que ça a rapport avec nous autres? Même j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il pense que c'était c'est pas juste de parler de Jésus comme roi sur l'Église. La Bible ne dit pas. Maintenant, tu ne dis pas ça comme ça. On va voir ensemble quelques petits versets, par exemple. Pour nous autres, je veux vous remarquer quelque chose. Acte 15, ça c'est la conférence à Jérusalem. Grosse question, quand des non-juifs deviennent chrétiens, là, il faut-tu qu'ils deviennent juifs avant où ils peuvent rentrer directement dans l'Église. Puis l'argument final, le dernier clou dans ce cœur de la circoncision, ce qui me rend bien heureux, c'est Pierre qui dit, « Je relèverai la tente de David. » C'est une citation qui fait de le livre d'Amos. Excusez-moi. Une bulle qui est passée. « Je relèverai la tente de David afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » C'est le reste des hommes, c'est qui donc ça? C'est pas les Juifs, ça? Il parlait déjà là, de la tente de David, mais là, c'est le peuple d'Israël. « Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. » Donc, la tente de David qui est relevée, ça veut dire le fils messianique, le fils promis qui vient, bien, lui, il va faire en sorte que le reste des hommes vont chercher le Seigneur aussi. Et nous, on bénéficie, nous autres, du règne de Jésus. On bénéficie de cette promesse de paix et de prospérité pour son peuple. On va voir un autre, Romains 1, 1 à 5. Cet évangile, il parle de l'évangile qui a été confié. Cet évangile concerne son fils, né de la descendance de David. Là, on le voit, selon la chair. C'est par lui, par son fils, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc, la nation canadienne, la nation québécoise, dépendant dans laquelle tu te trouves, la nation américaine, Bill. Ça peut fonctionner aussi, mais il va amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Nous bénéficions, nous autres aussi, de tout ça. On voit en 2 Timothée 2, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. » On voit encore la question, l'évangile, c'est une question que je lis souvent dans ce temps-ci. On essaie de définir exactement ce qu'est l'Évangile. Ça inclut-tu des actes de service et des miséricordes envers des gens? Puis c'est quoi exactement là, le minimum qu'on peut avoir en appelant ça un Évangile? Le maximum de ce qui est nécessaire? Mais Paul, il dit de se souvenir de Jésus-Christ comme étant descendant de David, bien, ça fait partie de son Évangile. Ça fait partie de quelque chose d'important qu'on doit se rappeler, nous, quand on pense à l'Évangile. Donc, c'est pour nous, c'est que la promesse d'un fils de David qui serait juste et obéissant, qui assurerait la paix et la prospérité de son peuple, c'est pour nous. Et si on imagine tout ce que ça aurait pu vouloir dire pour les Israélites dans le temps, quand David avait sa maison, puis il n'y avait plus d'ennemis, puis il y avait la paix, puis il y avait la prospérité. Et comment qu'eux, ils entendent dire que c'est promis, là, c'est pour vous, ce peuple de Dieu. Comment que ça devrait être un encouragement pour nous de savoir que le Dieu souverain qui accomplit ses plans, bien, maintenant, il règne en quelque sorte sur nous. Déjà. Il y a un déjà là-dedans. Et que toute sa bienveillance travaille pour nous, à nous diriger dans nos vies, puis à amener cette même paix et prospérité. Je ne parle pas de prospérité d'avoir les poches pleines de cash, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'arriver. Moi, je voudrais que vous ayez là une grande espérance. C'est facile de venir puis d'étudier. Même, j'ai étudié ces choses-là, puis il fallait que je lutte pour ne pas le prendre comme une histoire. Tu sais, je lis Le Seigneur des Anneaux, puis c'est beau, c'est très poétique, puis c'est bien organisé, puis la façon que les choses s'entrent. Tu sais, on trouve ça beau, mais c'est pas vrai, puis on ferme le livre, puis ça change rien. Puis ça aurait été facile pour moi aussi d'étudier ça, de dire, hey, c'est super beau comme histoire là, dans la Bible, là, que Dieu part quelque chose, puis il y a des racines, puis ça pousse, puis ça fait un arbre avec des fruits qui finissent par être la paix et la prospérité de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme sauveur. Mais c'est pas juste une histoire. Il y a une réalité, on a une foi à ajouter à ça. Il faut qu'on mette la foi à côté de ça et qu'on lit ensemble, qu'on se lie, nous, à ces vérités-là par la foi. Et c'est là que quand les difficultés viennent, quand les souffrances viennent, dans les situations difficiles, quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, quand ça ne se passe pas comme qu'on pense, quand la Bible ne semble pas s'accomplir dans nos vies, c'est là qu'on ajoute la foi. Puis on attend. Parce qu'on a une grande espérance en Jésus-Christ. Et ça peut se faire maintenant, aujourd'hui, à tous les jours, dans toutes sortes de situations. Et c'est quelque chose à partager avec des gens, avec d'autres chrétiens. C'est le fun de s'asseoir avec une autre personne qui croit en Dieu puis de parler de l'espérance que nous avons. C'est le fun aussi de le partager avec d'autres puis de dire qu'eux, ils peuvent aussi bénéficier de ça. Je pense à mes élèves à l'école. J'enseigne à des jeunes en difficulté d'apprentissage. Assez grave là, qu'ils font le secondaire 1 et 2 sur 3 ans. Donc, pensez, les parents, les professeurs décident avant même qu'ils entament le secondaire qu'ils vont faire 3 ans à place de 2 pour le premier cycle. C'est parce qu'ils ont des difficultés. Et souvent, c'est des difficultés qui viennent de toutes sortes de choses. J'avais une petite fille que sa mère était en train de mourir du cancer. Elle était à la maison depuis un an et demi là, dans un lit d'hôpital. Puis, ils s'attendaient, ça pouvait prendre un virage n'importe quand. En dedans d'un mois, là, ça pouvait se faire. Mais pourquoi tu penses que la petite fille avait des difficultés d'apprentissage? Hein? Beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont besoin d'espérance. Et moi, j'espère, je prie le Seigneur, je demande, je cherche, moi, premièrement, à les amener un peu de paix, un peu de grâce. Et j'espère que je vais pouvoir avoir des occasions pour leur partager cet espoir-là, que Jésus-Christ est le Messie promis qui rétablit les choses comme qui sont supposées. Le bon roi qui va régner en justice et faire le droit. J'espère pour vous, c'est un désir de vos cœurs aussi. Mais oui, c'est déjà arrivé. Mais si on lit la Bible, on comprend aussi que c'est pas encore tout arrivé. Ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup en anglais. Already, but not yet. Déjà, mais pas encore. Peut-être dur à comprendre, mais il y a un début. Il y a un début de tout ça, mais l'accomplissement va arriver. Je veux juste vous montrer un petit dernier texte qu'on voit en Apocalypse 22. Donc, on vient de voir l'Apocalypse. On parle de la fin des temps. Comment les choses vont se passer. Comment que Dieu va juger la méchanceté sur la terre. Comment que Dieu va juger tous les méchants, comment que Dieu va rétablir toutes les choses, comment Jésus va venir régner sur la création et comment qu'on va rentrer dans l'éternité future, dans un monde parfait. Plus de larmes, plus de faim, plus de nuit, plus de maladie, plus de tristesse. Okay? Et on voit Jésus qui se présente. Je pense que c'est la dernière fois dans le texte d'Apocalypse. Sinon, là, ça ne doit pas être loin parce qu'on est à quelques versets de la fin. Jésus se présente puis il dit, « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » On voit que oui, déjà, nous, on peut vivre certains privilèges de ces choses-là. Mais il y a un pas encore. On a une espérance qui arrive encore. On sait que si je dois travailler finalement jusqu'à 65 ans en enseignement, si je peux jamais me permettre un voyage en Barbade, peu importe le rêve que vous pouvez avoir, un jour, tout va être bien. Je dis souvent au monde, mais si je ne peux pas aller dans le sud, ce n'est pas trop grave. Je vais y aller, mais que la terre est refaite, là. Puis, mec, c'est refait, ça va être plus beau de toute façon, puis ça va être gratis. Je vais aller visiter. Donc, Dieu, quelle espérance que nous avons. Donc là, on retourne au début avec l'idée de 2 Samuel 7. On veut Dieu, il y a un plan. Et lui, il va l'accomplir. Et c'est pas fini. David a reçu sa promesse là, dans la suite des choses. Abraham, Jacob, Judas, même partant d'Adam, puis David y est arrivé à une certaine place, puis on entend parler. Puis Jésus s'est arrivé à une autre place, puis nous, on est un petit peu plus loin dans tout ça. On est dans une attente, puisqu'on a reçu une partie de ce qu'on a à recevoir, puis une partie de ce que Dieu va faire. Le plan n'est pas fini. Pas arrivé à son accomplissement plein encore. Mais Dieu va l'accomplir. Ça va venir certainement. Ça fait peut-être 2000 ans qu'on attend Jésus, puis c'est peut-être 2000 ans encore qu'on va avoir l'attente. Qui sait? Mais moi, je trouve de l'encouragement à voir qu'il a promis à Adam, puis des milliers d'années plus tard, il a promis à Abraham, puis centaines d'années plus tard, il a promis à Judas. Puis des centaines d'années après ça, là, Jésus est venu. Puis si ça prend 2000 ans encore, là, c'est pas grave. Moi, je vois dans la parole le plan de Dieu s'accomplit, tel qu'il a dit. Et j'y mets ma foi. Et quand je lis les promesses que Dieu nous a données, je sais pas de toutes les comprendre, puis je sais pas de penser que ça va être pour demain, cette chose-là, comme j'y pense. Mais j'ai foi. J'ai foi surtout qu'un jour, tout va être replacé comme il faut. Et la royauté va être redonnée. Le fils de David, le fils de David va régner sur son trône et tout va être bien. Donc, que nos cœurs soient encouragés avec ce message-là. On n'a pas passé beaucoup de temps en 2 Samuel 7, hein? Mais on a vu 2 Samuel 7, le tronc d'arbre, puis on a vu les racines qui retournent loin dans le passé, puis le fruit qui fait finir dans l'éternité. Je trouve bien merveilleux. Donc, prions ensemble. Donc, merci Dieu. Merci que tu es en contrôle de tout. Merci que tu nous révèles peu à peu ton plan et que tu me montres ce que tu as pour ton monde. Merci Seigneur pour la grande espérance qu'on peut avoir qu'un jour Jésus va revenir, rétablir toutes choses. Que ce soit un bon message pour nous à donner à ce monde. Mais aussi Seigneur, encourage nos cœurs avec la vérité que déjà, tu règnes dans nos cœurs. Et que tu travailles à assurer notre paix et notre prospérité en toute bonne chose. Que ce soit un encouragement pour nos cœurs aujourd'hui, dans les semaines qui vont suivre, et à travers toutes les difficultés qu'on pourra vivre. C'est des gens, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, bien que par ton Saint-Esprit, tu les touches, ces vérités les encouragent, les fortifient. Et que toi, Seigneur, tu as toute la gloire. Je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup.